C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Claire Bretécher, née en 1940, dessinatrice, française, hétérosexuelle. Œuvre Agrippine, série parue en feuilleton dans Le Nouvel Observateur, puis en 8 volumes, en partie rassemblée dans Agrippine l'intégrale. Personnage Agrippine. Adaptation, une série animée de 26 épisodes diffusée sur Canal+ en 2001. Il y eut un temps où Le Nouvel Observateur était le magazine le plus inventif du pays. Il ne jugeait pas, au-dessous de son lectorat, d'avoir de la drôlerie. Et une drôlerie osée. C'est là qu'on trouvait les dessins anarchistes et sexuellement désordonnés de l'Argentin Copy, avec sa femme assise à laquelle j'ai consacré un personnage en personne. On en trouvera le lien sur le site de l'émission. Audace qui serait probablement impossible aujourd'hui, dans le moment lugubre où nous nous trouvons. Et si le moment est lugubre, c'est que les gens sont lugubres. Les moments, c'est comme les idées, ce sont des personnes. Celle qui a eu l'idée d'engager Copy était Serge Laforie. Copy est resté au Nouvel Observateur de 1964 à 1974, Claire Bretécher arrivant en 1973. Ces frustrés, aussi bien qu'Agrippine, avaient ceci d'audacieux qu'ils se moquaient du mode de vie des lecteurs même du journal, ou du moins de leur mode de vie idéal. Il est devenu à la mode, dans la droite à club de golf, de se moquer des bobos. Bobos, bobos, précisément, comme si ça leur faisait mal. Que est-on chez eux? N'y entrerait-il pas de l'envie, celle du dédain des contraintes? Les bobos s'arrangeraient la vie en n'en suivant aucune, alors que ceux qui les critiquent souffriraient à maintenir la tenue. C'est ainsi qu'on accuse les autres de liberté qu'on n'a pas osé prendre. Les bobos, si ça a existé, ça a au moins eu le mérite de se moquer de soi-même. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu, à cause de cette élégance ironique, face à des ennemis qui ne se reconnaissent jamais aucun tort. Cette gauche qu'on appelait alors caviar, puisque Mitterrand l'avait jeté dans le grand bain de l'argent, essayait de penser l'humanité en bien, non parfois sans l'irritante assurance d'être du côté qu'il faut. Ça a tout de même été un moment sympathique de la société française. La droite à club de golf elle-même abandonnait les bénitiers, divorcés, cherchait, je ne dirais pas à s'amuser, quelle anarchie, mais à sourire. Qui est Agrippine? Pour en parler, je reçois Jean-Pierre Mercier, historien de la bande dessinée. Jean-Pierre Mercier, à quoi ressemble physiquement Agrippine?
C'est une adolescente d'à peu près 16 ans, qui est assez jolie. Ce qui est peut-être un peu paradoxal, puisque Bretécher passe son temps à défigurer ses personnages en leur mettant des grosses valoches sous les yeux, comme on dit, et elle leur fait toujours un gros pif, mais quand on la voit, je veux dire, elle est très déliée, elle est assez mignonne, et elle a toujours la même coupe de cheveux. C'est la seule chose qui soit constante dans son aspect, parce que le reste du temps, elle change de fringue, comme on dirait, à peu près tout le temps. Elle est jamais habillée deux fois de la même façon. Et je pense que Bretécher, à l'époque, a dû prendre un malin plaisir à regarder autour d'elle comment étaient habillés les gens du milieu dans lequel elle se trouvait, et en particulier les adolescentes. Parce que là, c'est un festival, c'est un vrai plaisir.
Alors, on se doute bien qu'elle se prénomme Agrippine par ironie. Quoique de la mère de Néron, elle a peut-être le sens de la dévastation, non?
Oui, on peut dire ça. Déjà, c'est une chambre. Sa chambre est une chambre d'adolescent, adolescente typique. C'est-à-dire, que c'est un bazar où l'hygiène est toute relative. Et puis, elle est comme tous les jeunes de cet âge-là. Elle passe du drame à la légèreté et elle est capable de mettre la révolution dans sa famille en exactement 30 secondes.
Je l'ai dit, la série a duré plusieurs années. Le personnage, comme tout personnage de bande dessinée qui se respecte, est resté à peu près fixe physiquement pendant toutes ces années. Oui. Elle n'évolue pas.
Hein. Non. En âge non plus, elle est toujours à peu près les dernières années du lycée, quelque chose comme ça.
Et nous sommes donc dans les années 1990-2000, comme
ouais,
ça. Hein
ouais.
Et donc vous dites, elle a 15-16 ans.
Ouais.
Alors, elle est d'une famille qui pourrait avoir l'air stéréotypiquement de bourgeois du 5e, du bourgeois parisien du 5e, d'origine catholique votant à gauche. Est-ce qu'on peut dire ça?
Je pense, oui. Le père est écrivain.
Voilà.
Son grand sujet, c'est les mollusques. Donc, dans le premier volume, il est en train d'écrire un livre sur une huître, une description d'une huître. Et puis, dans un des volumes suivants, il prépare un volume qui s'appelle « La moule expliquée à ma fille », ce qui est une chose formidable. Quant à la mère, moi, au début, je pensais qu'elle était peut-être prof, parce qu'elle avait toujours des tas de dossiers, elle était en train de corriger des papiers, mais il y a une histoire dans laquelle elle dit qu'elle est en contact avec un ministre slovène. Donc, est-ce qu'elle est une espèce de grand fonctionnaire qui travaille au ministère des Affaires étrangères, enfin, ou dans des services comme ça de l'État, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans la grande bourgeoisie, peut-être assez classique. Oui.
Le père, à un moment, dans un des albums, dit qu'il va travailler avec les gens de la chaîne, donc on peut supposer à un moment qu'il a aussi travaillé, c'est ça, à la télévision ou à la radio. Voilà.
Et puis, il y a aussi un moment où la mère dit que quand ils étaient jeunes, il avait payé ses études en déchargeant des camions, ce qui fait à peu près vomir Agrippine, qui ne supporte pas ce genre de misérabilisme. Enfin, voilà. Mais on est vraiment dans la grande bourgeoisie. Oui.
Et alors, lui, le père d'Agrippine, adore sa fille. Il est assez libéral. Dans un jour, elle arrive, on verra que c'est faux, mais elle arrive en trépignant de bonheur. Elle lui dit « Papa, j'ai fait l'amour ». Et lui répond « Merveilleux, ma chérie
». Absolument. Et Brotéché joue beaucoup avec le complexe d'Oedipe. Le père qui est en adoration devant sa fille, et elle surjoue aussi ce côté-là. Il y a une histoire où elle termine en disant, en fait, elle parle de ses petits amis, puis elle dit, ce que je cherche, c'est, en fait, ce que je cherche, c'est un père, et lui, il s'étrangle, parce que là, c'est un peu trop, quand même. Et quant à la mère, c'est plus principe de réalité, hein. Les choses doivent être faites d'une certaine façon, il faut avoir des règles de vie. Donc, il y a une répartition des rôles entre les parents qui est assez claire de ce point de vue-là.
Oui, la mère a un conseil de vie que je trouve charmant. Dans un des albums, elle lui dit « Ne te cure pas les dents avec cette terre de duchesse ». Et en même temps, la mère essaie d'avoir l'air jeune. Il y a aussi un moment où elle n'arrête pas de dire « génial » et Agrippine, exaspérée, lui dit « Maman, arrête de dire génial ».
Ça fait 3000 ans. Ça, c'est la mesure de temps d'Agrippine, quand c'est vraiment complètement passé, c'est 3000 ans. Ça fait 3000 ans que je te l'ai dit, ça fait 3000 ans que ça se dit plus, ça fait 3000 ans que je le répète, etc. Enfin, voilà. Et effectivement, la mère, elle essaye de tenir, elle dit tu dis giga, mais continue à dire génial, c'est mieux. Et puis il y a un autre moment où elle dit mais c'est à la mode, elle dit, tu sais, maman, quand tu dis que c'est à la mode, c'est que c'est déjà passé.
Il y a aussi un petit frère,
Biron,
qui a quoi, 3-4 ans, 5 ans,
peut-être, oui, 4-5 ans, peut-être, voilà, ouais. Qui est assez déluré pour son âge, enfin assez délié. Qui a très vite compris comment ça marche, qui sait récupérer les cadeaux auprès des tantes qui passent, enfin des choses de genre, et qui est une petite peste absolument charmante.
Mais qu'Agrippine a tendance à prendre pour un crétin, non? Tout en l'aimant beaucoup.
Ouais, elle l'aime beaucoup, et puis elle lui dit tu vas t'en manger une, quoi, régulièrement. Elle lui file des claques et elle le traite de moule, de bloc, de, enfin, bon, après, je pense qu'on va repasser,
on va
parler de l'invention langagière d'Agrippine et de Brotéché, mais là, c'est des relations, je trouve, assez classiques entre frères et sœurs. C'est effectivement de l'amour et de la confrontation et de la colère et de la violence assez régulièrement.
Il y a aussi un oncle.
Alors, Jean-Mi. Alors, tout le monde pense que c'est Jean-Michel. En fait, c'est Jean Million. Sa mère l'a appelé comme ça pour qui soit riche, ce qui est plutôt raté, qui travaille dans les milieux audiovisuels de la télévision, qui est une espèce de producteur. Il y a eu un épisode, une histoire où il essaye de monter une émission de télé-réalité. Alors on le voit en train de se battre avec les producteurs, les directeurs de boîtes de production audiovisuelle et tout ça. Enfin, c'est assez redoutable.
Il est un peu intermittent aussi,
oui,
un truc
oui,
comme ça.
Oui, enfin... Et il passe son temps à aller voir sa mère en lui disant, elle lui dit, t'as besoin d'argent. Il dit, maman, je ne viens pas te voir pour ça. Et puis à la fin, il dit toujours, écoute, si ça a 3000 en liquide, je veux bien.
Et alors, il est exaspéré par son prénom, ce genre. Oui. De temps en temps, il demande qu'on en change. C'est ça.
Alors, il faut l'appeler Scott.
Voilà, c'est ça.
Et il drague les jeunes filles, en particulier les copines d'Agrippine. Et alors, il y a un épisode où il y a tout un quiproquo autour de ça qui est extrêmement amusant.
Alors, un de mes personnages préférés avec Agrippine, c'est la grand-mère, la mère de sa mère. Qui est plutôt catégorie grand-mère indigne.
L'arrière-grand-mère dit zonzon.
Non, la grand-mère.
Ah, la grand-mère. Ah oui, pardon. Oui, parce qu'il y a zonzon, ça c'est encore autre chose.
On y vient.
La grand-mère, alors, elle est veuve, manifestement, et puis elle essaye d'être à la mode. Alors, il y a la dernière histoire, je crois que ça commence par la guerre entre la grand-mère et la petite-fille sur une paire de chaussures assez improbables. Que la grand-mère
finit par avoir
parce que c'est pas la bonne pointure. pour Agrippine.
Ah, de chaussures, il faut dire que c'est des baskets ultra mode, fluorescentes.
Ouais, enfin, avec
c'est pas,
des.
C'est pas des Louboutins.
Ouais, ah non. Avec des semelles complètement invraisemblables. Et donc là, elle essaye d'être mode. Alors, elle fait un lifting, évidemment. Mm-hmm. Elle change de coupe de cheveux à peu près. Pareil, tous les épisodes, c'est pas exactement la même.
Et chirurgie esthétique.
Chirurgie esthétique. Et puis, là aussi, essayer de suivre la mode, ce qui se boit, ce qui se mange, voilà, enfin, toutes ces choses-là.
D'ailleurs, à ce sujet, au café, elle commande, moi, ça me plaît beaucoup, une infusion de légumes oubliés avec un triple martel rondelle.
Ça, c'est formidable. Il y a plein de choses comme ça chez Bretécher. C'est à la fois des choses extrêmement classiques qu'elle connaît bien, je pense, de par son histoire personnelle, avec des trucs qui sont tout à fait dans l'air du temps. La collision des deux, ça donne un résultat tout à fait charmant.
On ne peut pas dire que ce soit une BD marxiste, parce que personne ne travaille vraiment beaucoup. La grand-mère en particulier, sa fille, lui dit un jour, tu as travaillé 2 mois à mi-temps en 1964.
On est dans la...
Dans l'aisance.
Oui, absolument, la grande bourgeoisie. Et au début, là, on parle encore en franc, mais Agrippine, pour son anniversaire, reçoit, comme elle dit, un Pascal, donc 500 francs de l'époque, et elle trouve que c'est rat. Ouais, c'est pas assez.
Et alors, vous avez cité Zonzon.
Zonzon, c'est un...
Donc, c'est la mère de la grand-mère.
L'arrière-grand-mère d'Agrippine, qui est un personnage qui apparaît dans une histoire et qu'Agrippine découvre. Et alors, c'est une révélation pour elle, parce qu'elle a une chose que ses copains et copines de lycée n'ont pas. Et donc, elle en parle, et puis... les autres finissent par fatiguer. Et Zonzon, c'est une espèce de petite bonne femme qui a une démarche et un sens de l'équilibre un peu précaire, mais qui a deux obsessions dans la vie. C'est l'heure du goûter pour pas que la voisine lui pique son flan ou sa crème au chocolat, et les bolcheviques. Voilà. Parce qu'elle est très, très anti-bolchevique. Et il y a un trait particulier dans toutes les histoires qui courent, et ça, c'est le petit plaisir que Bretécher s'offre, c'est que Zonzon ne se rappelle jamais du nom d'Agrippine, et elle l'appelle de tous les noms possibles et imaginables. Alors, ça commence par des choses un peu proches, comme Proserpine, puis à la fin, c'est absolument n'importe quoi, et c'est vraiment... C'est un comique de répétition qui fonctionne vraiment bien. Vraiment bien.
Et puis, c'est une grande bonté, Zonzon. Elle dit, dans une des séries, des planches, elle dit à sa fille du haut de série, tu as vieilli.
Absolument. Allez, sur ce... Les rapports entre mère et fille sont absolument sanglants. C'est extrêmement violent. C'est assez drôle, mais c'est sans pitié complètement.
Alors tout ça se passe à Paris, mais, nous dit Agrippine, toute ma famille vient du Maine-et-Loire depuis Charles le Chauve, ça assure mal.
Oui, alors elle souffre beaucoup. Il y a une page entière où elle est avec un copain, ils sont vautrés sur un canapé et ils sont en train d'essayer de voir. Oui, mais tu te rends compte, l'autre, il a des origines coréennes d'un côté, kabyle de l'autre. Et moi, en gros, on est effectivement du Maine-et-Loire depuis aussi loin qu'on puisse remonter. C'est pas du tout à la mode, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est quand même terrible, quoi, d'être à ce point français d'une certaine façon.
Alors, j'ai un peu tendance à penser que Agrippine c'est devenu de l'histoire, parce que maintenant l'adolescence est devenue tellement coucou plaie chasteté que Agrippine on connaît plus ça. Non, c'est un portrait d'une adolescence qui n'existe plus.
Oui, je pense que c'est vrai. Elle a la grosse obsession, en tout cas dans les premiers volumes, c'est comme elle dit conclure. C'est-à-dire trouver un garçon et puis enfin pouvoir utiliser le coffret premier rapport, avec tout ce qu'il y a dedans, et puis les relations avec les garçons, dit les gnolgi, dit les gnolgues, et en fait elle y comprend rien aux garçons. Et c'est son drame, enfin c'est un de ses drames, parce qu'elle vit dans le drame en permanence, mais c'est un de ses drames, effectivement, c'est de comprendre rien. Comment ils font, comment on fait quand on danse, est-ce qu'on s'embrasse, est-ce qu'on s'embrasse pas, quand on part en vacances, est-ce qu'on... Voilà, enfin, ce genre de... Elle est... Et effectivement, cette espèce d'ambiance de liberté sexuelle que les parents tolèrent et acceptent très très bien. Vous parliez tout à l'heure du père qui trouve que c'est merveilleux. On n'est plus tout à fait là-dedans aujourd'hui, clairement.
Alors, elle a une chose de singulier, de très reconnaissable, Agrippine, c'est son vocabulaire. Et on peut dire là aussi qu'il est de sa génération, mais il est peut-être un peu plus que ça, non ?
C'est un des grands talents de Claire Bretécher. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup adaptée au théâtre. Et c'est pour ça qu'on a fait vous parliez des adaptations des dessins animés Canal+, il y en a eu d'autres. C'est que c'est une dialoguiste absolument géniale. Vraiment. vraiment. Et elle prend tout le langage jeune de l'époque, c'est en gros le verlan plus quelques expressions, et elle en fait sa propre version, c'est-à-dire que par exemple, tout le monde à l'époque disait, et dit peut-être encore lesbéton, bah elle met ça au cube, si je peux dire, elle dit lesbouigue, ce que je trouve une invention formidable, et il y en a plein. Il y a plein de trouvailles comme ça.
Oui, vous avez raison, elle fait du double verlan. À l'époque, on disait « marum » pour « ma mère », et elle le transforme en « mameur ».«
Mameur » et « mon peur ».
Ouais.
C'est-à-dire, c'est effectivement le verlan, verlanisé une fois de plus. Et puis il y a des inventions qui... Je vais pas m'éclater la crête, c'est être sur le pli. Ça. Être sur le pli, c'est quand ça va pas. Là, je suis vraiment sur le pli. Quand on a une idée géniale, bah, ça m'a pris vapeur. Il y a de l'invention pure de Bretéché. Je m'esclave le groin. C'est comme... D'ailleurs, je me casse les pieds à t'expliquer quelque chose. C'est d'elle, ça. Et il y a plein de trouvailles. Ou des choses toutes bêtes, par exemple la grand-mère qui rentre et qui dit « Oh, Agrippine m'a envoyé une carte postale », et la mère d'Agrippine qui dit « Louons le Seigneur ». C'est absolument formidable, on s'attend pas du tout à ça. Et il y a toujours ces effets de décalage avec des niveaux de langage qui cohabitent et qui sont mélangés et qui sont complètement inattendus. Et ça, c'est un vrai bonheur.
À propos de mère, nous allons entendre un passage d'un sketch de Sylvie Joly, La mère super dépassée. C'est extrait d'un enregistrement au Casino de Paris en 2010.
Tu rentreras pour dîner ce soir ? Non, peut-être pas. Hein ? Peut-être pas. Oui, bien sûr, tu verras. Peut-être bien que tu rentreras pas coucher, hein, c'est possible. Oui, bien sûr, ma chérie, tu sais pas encore, tu verras. Tu sors avec Jean-Loup, sûrement. Ah non. Ah, excuse-moi, c'est Jonathan, maintenant. Ah, je savais pas, excuse-moi. Ah bon. Les parents de Jonathan sont en voyage et ils lui laissent l'appartement entièrement libre. Formidable. Il organise une partie ce soir, tu me l'avais pas dit, c'est chouette, ça, dis-moi, ça va être vachement sympa. Non, tu sais pas encore, tu verras. Oui, bien sûr, tu verras. Et vous serez nombreux. Combien? Une dizaine. Nathalie et Sylvie sont invitées aussi, sûrement. Non? Ah bon? Ah bon, tu seras la seule fille. C'est chouette, ça, dis-moi, hein? C'est... Vraiment flatteur pour toi, une seule fille pour 10 garçons, eh ben, je pense. Nathalie et Sylvie doivent être drôlement jalouses. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah bon? Moi, je disais ça, ma chérie, excuse-moi.
Jean-Pierre Mercier, on vient d'entendre Sylvie Joly dans Une mère dépassée. La série des Agrippines de Claire Bretéché est aussi une critique même de la notion d'éducation, dans la mesure où ça semble dire avec les enfants on fait ce qu'on peut.
Bah avec les adolescents, oui, on essaye de suivre le mouvement. C'est l'âge où on pense avoir posé des cadres et puis tout ça explose et il y a des pages absolument hilarantes où quand Agrippine a des crises de désespoir et que sa mère la trouve, c'est une de mes pages préférées, elle est sur son lit en train de pleurer puis sa mère qui rentre qui dit « Ah bon ?» C'est encore à propos de la vie. Et puis elle s'assoit et lui dit, mais tu vas t'amuser, tu vas avoir des amis, tu vas être amoureuse, tout ça. Et puis, en fait, elle continue à pleurer. Et puis la mère dit, bon. Et elle commence à faire toute une litanie des choses abominables de la vie. Et on voit petit à petit Agrippine qui va de mieux en mieux. Et puis la mère qui, elle, se rendant compte de ce qu'elle raconte et que quelque part c'est vrai, devient de plus en plus renfermée sur elle-même, comme ça, et triste et complètement déprimée. Et à la fin, Agrippine, avec un grand sourire complètement rassérénée, qui lui dit, ah, ça me fait un bien ce que tu me dis. Vraiment, voilà, c'est comment on fait avec des adolescents, ben ça marche jamais vraiment comme on s'y attend, quoi. Et ça, je trouve c'est vraiment extrêmement bien vu de ce point de vue.
Et d'ailleurs, ses parents, le père aussi, qui essaie d'être cool, je parlais des bobos au début, les gens s'imaginent que c'est l'anarchie la plus totale. Or, à un moment donné, dans une des planches, Agrippine a la lubie de faire un BTS. Et son père, donc super cool, etc., dit, ma fille dans la technique, je m'en vais te la coller à l'Assomption. Donc, il y a quand même du retour de conservatisme.
Bien sûr. Oui, il y a quand même des grands principes de classe. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et quand on touche réellement à ce qui est important, la réaction arrive tout de suite. Et là, je pense que c'est du vécu, hein, par rapport à l'auteur, par rapport à Brotéché. Je pense qu'elle connaît ça très très bien, il me semble. Ce qui est très intéressant avec Agrippine, c'est que elle est comme tous les adolescents. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un moment où la mère le dit, on est toujours au bord du fait divers. C'est-à-dire qu'elles sont tellement exaspérantes qu'elle a envie de les étrangler ou de l'acheter par la fenêtre. Et puis, en même temps, on peut pas s'empêcher de les trouver formidables et de les adorer. Donc, elle joue tout le temps sur ce registre-là. Et c'est incroyablement intelligent.
Alors, l'illusion peut-être avec Agrippine serait de penser que ça n'est que de la sociologie, et il faut pas oublier la grande fantaisie qui nous est signalée en particulier par la population qui entoure Agrippine et ses amis et la façon dont ils sont nommés.
Ah ben alors j'ai fait une petite liste parce que moi j'adore ça. Sa grande amie s'appelle Myrtille Galère. Son grand copain à moitié son amoureux on va dire s'appelle Moderne Mesclin. Il y a Hernani Kemener, Moonlight Mollard, Chlorine Bancrupt, Kassem Lemuel, Rouge-Gorge de Cossé-Blanzac.
Alors j'aime bien Persil Vagonnet quand même.
Ah, et Persil Vagonnet très bien aussi. Ah oui, ça c'est
un proche,
c'est un coup de foudre. Il y a des dialogues formidables, même Picasso peignait au logiciel, c'est prouvé. Ça c'est comment s'appelle-t-il, Moderne Mesclin qui dit ça et elle répond n'empêche qu'il s'est coupé l'oreille. Donc c'est une espèce de mélange de, enfin c'est voilà, c'est moi j'adore parce que c'est l'adolescence dans ce qu'elle peut avoir à la fois de complètement extrême, de complètement futile parce que ces histoires de fringues et puis de temps en temps des vraies bonnes questions quoi.
À propos de fringues, on voit bien là en revanche une photo de l'époque et on voit bien que c'est l'apothéose de la consommation en France ou à Paris et on voit passer toutes les marques à la mode de l'époque, Agnès B, Koukaï, Bertillon, tout ça est très
Hermès aussi. Oui, oui, absolument. Ça aussi, c'est du sur le vif. Hein. Je pense qu'il suffit d'être dans les bons, au bon carrefour ou dans les bonnes rues pour regarder. Et Brotéché, elle dit toujours qu'elle voit rien parce qu'elle est myope, ce qui est vrai. Mais c'est pas vrai. Elle est absolument redoutable hein, sur les profils, les silhouettes, les attitudes. Et elle a une technique de dessin moi, qui me fascine. Pour avoir vu les dossiers, c'est que pour quasiment chaque case qu'on voit dessinée, elle va faire une, deux, trois esquisses pour trouver la bonne attitude, le bon mouvement, la bonne posture. Et quand elle l'a, alors c'est un peu comme un photographe qui va faire 10 photos et puis entourer la bonne. Et elle le fait, elle entoure le bon croquis. Et ensuite, elle va le reprendre sur la planche. En gardant l'énergie de ce premier jet, enfin de cette esquisse qui a été jetée comme ça, et c'est ça qui donne le dynamisme. Et quand on discutait avec Brotéché sur ses influences, elle disait moi j'aime beaucoup Tintin, mais je suis plus du côté de Franquin, de Gaston Lagaffe. C'est-à-dire une forme de description de la réalité qui est très exagérée. Les postures sont, alors en plus avec des adolescents, c'est le bonheur intégral, hein, parce que ils sont dans des positions complètement invraisemblables. Mais il y a une base réelle, enfin il y a une base de dessin réaliste entre guillemets, enfin de technique. Elle est extrêmement bonne pour ça.
Oui, alors que ça a l'air assez de chic comme ça, et en fait c'est
pas
très travaillé.
Et c'est extrêmement bien travaillé. Et ce qui est fascinant à regarder l'évolution graphique de Brotéché sur l'ensemble de sa carrière, c'est qu'elle va commencer avec un dessin très simple, enfin cellulite pour ceux qui connaissent, qui est un autre grand moment. Ben voilà, une autre adolescente, mais au Moyen-Âge. C'est dessiné comme ça très très vite. Et en fait, plus elle avance dans sa carrière, et plus elle revient vers une forme de réalisme. Et ce qui est très étonnant dans les Agrippine, en particulier des scènes d'extérieur, c'est que si on enlève les personnages avec ces gros pifs là, on est les voitures, les murs, les graphes et tout ça, c'est extrêmement bien saisi et ça pourrait être un décor pour un tout autre type de dessin.
Sauf qu'en même temps, c'est plutôt esquissé et c'est quand vous dites réaliste laisse entendre l'idée que c'est extrêmement bien léché, travaillé. Elle fonctionne plutôt par détails révélateurs.
Absolument. Non, moi, je suis en admiration complète devant le talent graphique de Brotéché.
Alors, il me semble que Agrippine, c'est le contraire des Malheurs de Sophie. Ça serait à la rigueur les Malheurs de Madame de Réan dans la mesure où la mère d'Agrippine enrage. Mais il me semble que c'est le personnage d'un moment où on a tenté de chasser le moralisme, parce que ça n'est pas moraliste.
Du tout, c'est vrai. Ce que vous disiez en introduction sur une époque un peu révolue, effectivement, il y a une forme de liberté, et en même temps, il y a un, comment dire, il y a un, Il y a une vraie posture. Moi, je pense que les humoristes sont toujours quelque part des moralistes. C'est vrai pour Reiser, c'est vrai pour Gottlieb. Il y a une certaine vision de la vie. Je parle en bande dessinée, mais pas uniquement. Et dans le cas de Bretéché, il y a quand même un socle. Mais c'est l'esprit de l'époque dans le sens où on peut imaginer plein de choses, on peut essayer plein de choses, on peut avoir une certaine liberté, parce qu'on est dans un monde qui est quand même encore à peu près cadré, ce qui me semble être moins le cas aujourd'hui.
Oui, puis c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'enragé par le type de personnage que, comme Agrippine, on a inventé l'expression jeunisme, alors que maintenant, on est plutôt en plein vieillisme, non ?
Oui, c'est vrai. Enfin, il y a du jeunisme dans la volonté absolue de la grand-mère de rester moderne, etc., etc. C'est un peu ridicule. Et en même temps, c'est un peu touchant, parce que c'est essayer de rester quand même dans la vie, d'essayer de faire des choses d'aujourd'hui, de continuer à vivre au présent. Ça, on peut pas vraiment critiquer ça.
La sexualité est assez calme, mais il n'y a pas de drogue, il n'y a pas tellement d'alcool. On voit pas Agrippine, qui s'appelle Agrippine, pourrait passer à cause de ce prénom pour une déchaînée. Et au fond, elle l'est pas tellement, non?
Non, et c'est même étonnant, parce que dans les soirées, tout le monde boit, on fume, ce qui est plus possible aujourd'hui. Et puis c'est un personnage, par exemple, la secte à Raymond, qui est un album entier autour du phénomène des sectes, elle est viscéralement imperméable à ça, et ça l'irrite complètement. Et elle passe l'intégralité de cette histoire, donc un album entier, à être contre la fameuse Raymond, et qui est montrée comme une manipulatrice absolument infecte. Et Agrippine, elle a la bonne boussole pour ça, elle se trompe pas, elle est du bon côté, quoi.
Jean-Pierre Mercier, si on vivait dans un monde où les personnages de différents créateurs de bandes dessinées se rencontraient, est-ce que vous diriez que Agrippine est une petite nièce d'un personnage de Sempé et qu'elle aurait un cousin du côté de chez Martin Véron ?
Sempé, Bretéché est en vénération devant Sempé, clairement. Martin Véron, certainement. Reiser, il me semble aussi. C'est pas par hasard que quand Bretéché est parti, Reiser est arrivé au Nouvel Observateur. Bon, la maladie
a fait. C'est une assez bonne succession, tout ça, pardon de vous couper. Copie, Bretéché, Reiser.
Reiser, bien sûr. Mais il y a une ligne graphique, si je peux dire. Enfin, il y a une forme d'humour. C'est une famille, effectivement, ça fonctionne. Et effectivement. Et puis, il y a Gérard Lozier, qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Cette façon de se moquer, ils ont en commun, par Reiser. Mais, Martin Véron, Bretéché et Lozier, leur sujet, c'est la bourgeoisie. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on discute avec, justement, Martin Véron et autres, ils sont tous en admiration devant elle, parce qu'elle a réussi, avec le dessin, enfin, avec les moyens spécifiques de la bande dessinée, à faire quelque chose qui est absolument unique. Et qui est, en plus, si je peux me permettre, pour pas mal l'interpréter, mais qui est très français, je trouve. Il y a quelque chose de alors, parisien, bien sûr, mais il y a une forme d'esprit que je trouve vraiment, il n'y a pas d'équivalent, quoi.
Jean-Pierre Mercier, que vous a appris le personnage d'Agrippine?
Je m'en rendais pas compte, mais j'ai deux filles qui ont à peu près, enfin, qui ont un peu dépassé cet âge-là, mais je suis passé à travers cette époque, et j'étais content d'avoir connu Agrippine avant, ça m'a un peu préparé, on va dire.
C'était Personnage en personne, le 88e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Philippe Marlowe, créé par Raymond Chandler dans Le Grand Sommeil.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Pascaline Bonnet. Prise de son Pierre Monteil. Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay pour sa nouvelle émission sur la bande dessinée.
Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis là-haut.